que voilà une scène étrange, extraordinaire, presque magique. D'ailleurs, le terme grec qu'utilise Marc et que notre tradition traduit par transfiguration, c'est celui de métamorphose, que les textes de l'époque utilisent le plus souvent dans un sens magique ou ésotérique. Ovide, le poète latin des métamorphoses, qui nous montre comment les dieux se transforment en humains, comment les humains se transforment en animaux, en plantes, en fontaines, et même à la fin de l'œuvre, comment César, divinisé, devient une étoile dans le ciel, Ovide est presque contemporain de cette scène. Il n'est pas mort depuis très longtemps à l'époque du ministère de Jésus. Alors, pour apprivoiser ce récit mystérieux, je vous propose quatre étapes. Quatre étapes qu'on pourrait rassembler en une phrase. La transfiguration, c'est un moment central qui nous révèle qui est Jésus, mais c'est un moment qui se déroule en un lieu étranger. C'est un moment où Jésus rencontre Élie et Moïse, le tout devant des disciples qui n'y comprennent rien. Un moment central. Dans l'évangile de Marc, c'est vraiment le cas à proprement parler en ce qu'il est situé à la mi-temps du texte, à mi-chemin entre le baptême de Jésus par Jean au chapitre 1er et son apparition ressuscitée à Marie de Magdala puis aux disciples au chapitre 16 et dernier. Le baptême à la suite duquel déjà une voix était venue du ciel pour dire de Jésus qu'il était le Fils bien-aimé. La résurrection qu'annonce Jésus à la fin du récit de la Transfiguration, vous l'avez entendu. À nouveau, comme à Jean-Baptiste et à ceux qui étaient avec Jean-Baptiste au bord du Jourdain le jour du baptême, comme à Marie de Magdala et aux disciples le premier jour de la semaine qui suit la résurrection, est révélé dans ce récit le lien indissociable entre Jésus et son Père. Avant la voix du ciel qui affirme ce lien, vient cette blancheur éclatante qui change l'aspect des vêtements de Jésus, cette blancheur que tout l'art des blanchisseuses les plus expertes n'a jamais pu obtenir. Pour autant, si l'on compare le récit de Marc à ce parallèle de Matthieu et Luc, il est une différence qui me frappe. Si ces deux autres évangélistes nous disent que le visage de Jésus se met à resplendir comme le soleil, cela c'est Matthieu qui le dit, ou à tout le moins que son visage est transformé, selon Luc, Marc ne nous parle que de ses vêtements. Je ne sais pas si cela a influencé les pères de l'Église qui se sont si longtemps disputés sur qui était le Christ, avant d'arriver à se mettre d'accord sur cette double nature d'un Jésus vraiment homme et vraiment Dieu. Mais ici, de cette double nature, Marc nous donne peut-être une belle image. Au moment même où elle est révélée aux trois disciples qui sont là, où elle est révélée cette nature divine de l'homme aux côtés duquel ils viennent de vivre et de cheminer pendant de longs mois, eh bien, le visage de cet homme reste le même, il ne change pas. Nous savons la suite de l'Évangile, la mort et la résurrection, la suite aussi pour ceux qui s'y intéressent des débats théologiques de l'Église des premiers siècles. Nous pouvons décrypter ce mystérieux changement d'apparence, comme l'annonce de la résurrection, nous pouvons en mesurer le caractère central, mais les disciples ne comprennent rien, j'y reviendrai. Un moment central qui se déroule en un lieu étranger. Tout ce qu'à première lecture nous dit le texte, c'est que cette scène, elle se passe sur une haute montagne. On peut comprendre pourquoi le moment où est révélée aux disciples la filiation divine de leur compagnon de route se situe comme à mi-chemin entre la terre et le ciel sur une haute montagne. Pourtant, une autre indication géographique nous est donnée que je n'ai pas découverte toute seule, mais que j'ai découverte dans un petit livre ancien, mais qui m'est très cher et qui est toujours accessible, du pasteur Louis Simon, qui s'appelle Mon Jésus. C'est que cette scène, comme toutes celles qui la précèdent depuis le verset 24 du chapitre 7, se déroule en terre étrangère, chez les païens, aurait-on dit à l'époque. Alors, avec Louis Simon, mais surtout avec Marc, suivons les déplacements de Jésus pendant ces quelques versets. À la fin du chapitre 7, Jésus quitte la rive galiléenne du lac de Tibériade pour se rendre à l'étranger, dans le territoire de Tyr en Phénicie. Et c'est là qu'il est abordé par une païenne, une femme syrophénicienne, qui lui demande de sauver sa fille. Jésus refuse, parce qu'il est venu pour les Juifs, explique-t-il. Mais la femme s'obstine et elle finit par le convaincre. Puis Jésus part vers Sidon, toujours en Phénicie, puis ensuite vers la Décapole. Il vous suffit de regarder une carte et vous verrez que Jésus n'aime pas les lignes droites, parce que pour aller de Tyr à Sidon, il faut longer la côte méditerranéenne vers le nord. Et pour aller de Sidon à la Décapole, il faut s'enfoncer dans l'intérieur des terres, vers l'est, et puis descendre à nouveau vers le sud, la Décapole étant située sur le territoire de l'actuelle Jordanie. C'est dans cette zone largement déserte que Jésus guérit un enfant sourd et muet, puis qu'il nourrit 4 000 hommes avec 7 pains et quelques petits poissons. Jésus aborde à nouveau le lac de Tibériade, mais toujours du côté païen. Et il passe par une ville inconnue, Dalmanuta, que personne ne sait situer sur une carte, où il refuse un signe aux pharisiens, qui l'ont pourtant suivi jusqu'en cet étrange endroit pour tenter de le piéger. Jésus continue sa route jusqu'à Bethsaïda, et là nous sommes toujours sur la rive est du lac, non pas en Galilée, qui est à l'ouest, mais en Traconitide. Là, dans cette région qui n'est pas vraiment hospitalière, Jésus guérit une aveugle et il s'enfonce vers le nord, toujours en Traconitide, en direction de Césarée de Philippe. En fait, il est sur la route de Damas. Et encore un peu vers le nord, nous y voilà. Il grimpe avec Pierre, Jacques et Jean sur la haute montagne de notre texte, qui ne peut être que le mont Hermon, qui culmine à plus de 2 800 mètres et est maintenant à la frontière entre le Liban et la Syrie. Après cette ascension et la transfiguration, Jésus retournera dans les terres juives de Galilée et de Judée, qu'il ne quittera plus. Mais, comme le relève Louis Simon, c'est en terre étrangère, au milieu des païens, que Jésus est à proprement parler devenu le Christ. C'est en terre étrangère que, bousculé par la syrophénicienne, il comprend qu'il n'a pas été envoyé seulement à ses frères juifs, mais au monde entier. Et c'est encore en terre étrangère, dans les marges du monde juif, qu'il va se révéler à ses plus proches disciples par l'éclatante blancheur de ses vêtements. En cette terre étrangère, c'est pourtant par les deux figures centrales du judaïsme, par la loi et les prophètes personnifiés que Jésus est rejoint, par Moïse et par Élie. Et il faut s'arrêter un moment sur ces deux personnages, pour nous souvenir d'abord que la terre étrangère ne fait pas peur à Moïse, tout simplement parce qu'il n'a jamais connu qu'elle, lui qui n'a jamais foulé le sol de la Palestine, mais qui a conduit les Hébreux dans le désert jusqu'aux portes de cette terre promise, sans y pénétrer lui-même. Cette terre étrangère, elle ne dépayse pas davantage Élie, qui n'est pas né en terre juive, et qui a été si souvent chassé de cette terre juive par le roi Achab et par la reine Jézabel, qui ne lui veulent pas beaucoup de bien, et qui le contraignent notamment à se réfugier en Phénicie, à nouveau, à côté de Sidon, chez la veuve de Sarepta. Ainsi, l'échange qui se noue sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, entre ces deux figures du Premier Testament et Jésus, c'est un dialogue entre étrangers sur cette terre, entre des déracinés voyageurs qui jamais se sont arrêtés, qui jamais s'arrêtent. Au moment même où Jésus mesure combien son ministère est universel, avec Moïse et Élie, cependant, il s'enracine dans sa judéité. Il rend hommage à ceux qui l'ont précédé et qui ont contribué à le mettre en chemin à leur suite. Parce que comme Élie, il dénonce inlassablement l'injustice et l'hypocrisie, et il en paiera le prix. Comme Élie d'ailleurs, il vivra une ascension qui le verra quitter la terre pour le ciel, sans même laisser sur cette terre une dépouille humaine. Comme Moïse, il montre la voie. Sa terre promise à lui s'appelle le royaume, et c'est à nous de prendre le relais et de le découvrir. Alors, quand on voit Moïse, Élie et Jésus parler ensemble sur la montagne, on comprend mieux le choix fait par Marc de révéler au-delà des frontières, à la marge, en terre étrangère, que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes juifs, mais qu'il l'est pour tous les peuples. Et pourtant, tout cela se déroule devant des disciples qui n'y comprennent rien. Pierre, nous dit le texte, lorsqu'il voit Jésus transfiguré avec Élie et Moïse, ne sait que dire. Et comme Jacques et Jean avec lui, il a peur. Est-ce pour apprivoiser cette peur qu'il affirme dans une parfaite antiphrase qu'il se réjouit d'être le témoin de cette scène? Est-ce pour se laisser le temps de tenter de comprendre qu'au lieu de se taire, puisqu'il ne sait que dire, il parle à tort et à travers et il fait une proposition pour le moins saugrenue, celle de dresser trois tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. Une suggestion tellement à contre-temps qu'à peine elle est formulée, qu'elle devient obsolète. Moïse et Élie ont disparu, et Jésus, dont les vêtements ont sans doute perdu leur éclatante blancheur, est à nouveau seul avec eux. À quoi serviraient ces trois tentes? On comprend que Pierre aurait voulu fixer cet instant, le figer peut-être, garder pour lui. Et pour Jacques et Jean, ces trois figures dont il sent bien que la rencontre a un sens qui lui échappe, mais qui doit être capital. Une tente pour chacun, pense Pierre, qu'il s'arrête, qu'il s'installe, qu'il s'abrite, qu'il se repose, qu'on les enferme, serait-on tenté de dire. Comme si Pierre, en prenant la parole alors qu'il n'a rien à dire, avait fait en sorte de ne pas entendre la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Comme si Pierre avait oublié la première parole que Jésus lui a dite au verset 17 du chapitre 1er de l'évangile de Marc, lorsque Jésus l'appelle avec son frère André, avec lequel il est en train de pêcher, et qu'il lui dit « Venez à ma suite. » Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors Pierre, écoutez Jésus, ce n'est pas vouloir l'enfermer dans une tente, dans un temple, dans une institution quelconque. Pierre, pourtant, tu le sais bien, écouter Jésus, c'est vivre avec lui tout ce que Marc nous raconte dans les chapitres qui précèdent de ce que tu as vécu avec lui. Écouter Jésus, c'est marcher, marcher et encore marcher avec lui. rencontrer avec lui des gens possédés, des gens malades, des gens paralysés, des gens lépreux, les rencontrer vraiment et guérir avec eux comme tu as vu Jésus les guérir, comme tu as vu Jésus les délivrer. Oui, Pierre, écouter Jésus, c'est avec lui dénoncer l'hypocrisie et le légalisme des pharisiens de toute espèce. C'est avec lui courir le risque d'être incompris dans sa propre ville, rejeté par les siens. C'est avec lui sortir des frontières des terres connues et familières. C'est avec lui se laisser convertir par une étrangère. C'est avec lui traverser la tempête, cette tempête dont tu n'avais même pas compris que Jésus pourrait l'apaiser. C'est nourrir les autres, comme tu l'as fait, quoique tu aies eu toi-même les mains presque vides. Écouter Jésus, c'est ne pas croire qu'on peut le posséder, l'apprivoiser, le mettre sous tente ou sous cloche. Mais ne soyons pas trop sévères avec toi, Pierre. Tu vas repartir aux côtés de Jésus, sur les routes de Galilée et de Judée jusqu'à Jérusalem. Tu vas le suivre encore et encore. Tu vas le perdre, le renier même. Sûrement, tu ne seras pas au pied de la croix, et pourtant, tu le verras ressuscité. Nous ne sommes pas meilleurs que toi, Pierre. Mais faisons comme toi. Amen.